Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour cette invitation. C'est aussi un grand plaisir de revoir plein de gens. Donc, je suis aussi une Nantaise et j'ai le plaisir, voilà, de retrouver Anne-Sophie Coutin. On était au CHU à Nantes et à Saint-Nazaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la place centrale de la sage-femme. Donc, Luc de Berny s'est retenu. Donc, moi, je ne vais pas me retenir de parler des sages-femmes. Je crois qu'il y en a dans la salle aussi aujourd'hui. Alors, peut-être ça vous semble bizarre. Je ne vais pas commencer directement en mettant le focus sur l'Afrique ou l'Asie. Je vais en fait faire un retour en arrière, en Europe, pour voir comment nous, on s'en est sortis finalement pour réduire la mortalité maternelle. Et je pense que c'est intéressant de voir comment des pays comme la Suède, comme les États-Unis, ont réussi à réduire la mortalité maternelle. Et on va voir que ça s'est vraiment fait de manière très différente selon les pays. Et je pense qu'il y a des bonnes leçons qu'on peut en retirer pour les pays à faibles ressources. Donc, si vous voyez ici sur le graphique, vous avez en rouge, en fait, l'évolution du ratio de mortalité maternelle en Suède. Et vous avez ici, en noir, l'évolution du ratio de mortalité maternelle aux États-Unis. Et alors, ce qui choque tout de suite, c'est qu'on voit que la Suède a réussi très, très rapidement, en fait, hein, avant même les années 1900, déjà au fin du 19e siècle, à réduire de manière assez drastique sa mortalité maternelle, alors qu'on voit que les États-Unis, ils plafonnaient à 600 à 700, ce qui correspond au niveau des pays à faibles ressources dont parlait Luc. Donc c'est intéressant de se voir qu'est-ce qui s'est passé en Suède et qu'est-ce qui ne s'est pas passé aux États-Unis. Et donc on va un peu voir ça ensemble maintenant. Alors en fait, en Suède, enfin, et comme dans les autres pays, à chaque fois, il y a des facteurs techniques, des facteurs politiques qui font que les choses ont bougé. Luc disait tout à l'heure que l'important, c'est de savoir aussi reconnaître et évaluer le ratio de mortalité maternelle. Est-ce que le problème est important ou pas? Et on se rend compte qu'en fait, en Suède, ils avaient déjà un registre national. Et déjà en 1749, ils avaient déjà un registre national qui leur donnait beaucoup de données. Et dès 1751, ils ont pu quantifier le nombre de mortalités maternelles et faire une analyse et voir qu'il y avait des décès évitables. Et en fait, cette connaissance déjà de la mortalité maternelle en Suède a fait qu'il y a eu un engagement politique et une prise de conscience. Et en fait, dès 1777, les sages-femmes ont été reconnues, donc c'est très très tôt, hein, quand on voit par rapport aux États-Unis ou même en France, ont été reconnues comme une profession à part entière, avec une décision politique de former des sages-femmes professionnelles et de les mettre dans tous les coins du pays, les endroits les plus reculés. Donc ça, c'est vraiment, je pense, à remarquer. Et Luc le disait, la volonté politique est vraiment très, très important dans la réduction de la mortalité maternelle, parce qu'il faut se donner les moyens. Ce n'est pas juste faire un effet d'annonce. Il faut mettre des budgets et s'organiser. Donc, on voit qu'il y avait une véritable décision stratégique. Et au niveau technique, ce qui est important aussi, c'est que ces sages-femmes... Alors, ce qui est important aussi de dire à l'époque, c'était que la Suède est un pays très rural. 87% de la population vivait en milieu rural. Il n'y avait qu'un seul hôpital à la capitale, donc il n'y avait que 1% à l'époque des femmes qui accouchaient à l'hôpital. Donc tout le monde accouchait à domicile. Donc la politique, ça n'a pas été d'abord de créer des hôpitaux et de mettre les femmes à accoucher dans les hôpitaux. C'était plutôt de créer des sages-femmes professionnelles qui allaient suivre les femmes et faire les accouchements de manière professionnelle, mais au départ à domicile. Après, les femmes sont aussi allées vers l'hôpital, mais pas au début. Et donc, on a donné du pouvoir à ces sages-femmes et on leur a donné, en 1829, elles ont pu avoir accès aux forceps et à la craniotomie. Donc, elles pouvaient faire en fait des gestes aussi d'urgence. Et ensuite, il y a eu l'avènement de l'asepsie. Enfin bon, elles ont dû utiliser les antiseptiques, mais c'est pour vous dire que voilà, elles avaient quand même une marge d'action assez grande, ces sages-femmes suédoises. Elles étaient respectées, donc ça c'est aussi important puisque c'était une politique de l'État. Il y a même, bon, c'était un pays assez religieux, donc il y avait même, enfin, chaque paroisse devait même donner X jeunes femmes pour se former. Il y avait même des bourses pour former des jeunes femmes pauvres qui devaient retourner dans leur commune pour travailler. Et ça fait tout de suite écho à certaines stratégies qu'on pourrait mettre en place, je pense, en Asie ou en Afrique, où, voilà, on sélectionne ces certaines jeunes filles, on leur donne des bourses parce qu'elles n'ont peut-être pas les moyens d'aller à l'école, et après, elles doivent servir X années leur village. Donc, rendre les soins professionnels accessibles, comme je disais, il y avait vraiment un quadrillage de la Suède, et donc toutes les sages-femmes n'étaient pas concentrées à la capitale, elles couvraient tout le pays. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que cet engagement public n'était pas fait que par le secteur de la santé. Donc il y avait vraiment le gouverneur. Chaque gouverneur était responsable aussi de suivre ces chiffres de mortalité maternelle, de s'assurer qu'il y ait X sages-femmes bien opérationnelles dans son secteur. Donc on voit que c'est devenu vraiment quelque chose de politique et que ce n'était pas réservé au ministère de la Santé. Et donc il y a vraiment eu des supervisions, hein. Luc parlait de supervision, donc il y avait un médecin de santé publique qui était chargé de superviser les sages-femmes. Donc les sages-femmes faisaient à l'époque des accouchements à domicile, mais s'il y avait une complication, elles savaient qu'elles pouvaient appeler un médecin qui pouvait leur venir en aide. Donc c'est pas qu'elles travaillaient seules, hein. C'est pas non plus, on sait toujours que le duo gynéco et sage-femme est toujours là, mais c'est pour vous montrer, voilà, elles étaient en première ligne, mais quand il y a une complication, on appelle le médecin. Alors, voilà. Alors, ça, c'est pour vous montrer aussi l'évolution de la professionnalisation des soins et quel impact ça a eu sur la mortalité maternelle qui a diminué. On voit ici que ça ne s'est pas fait si rapidement que ça. Il y avait forcément des réticences parce qu'il y avait aussi des matrones, des accoucheuses traditionnelles, et ces sages-femmes formées ont dû les remplacer, et ce n'était pas évident. Et donc, on voit ici, en rose, vous avez les accouchements faits par des accoucheuses traditionnelles, et on voit que ça a diminué. Et progressivement, vous voyez en bleu, ce sont les accouchements à domicile faits par les sages-femmes formées. Et on voit ici en blanc, c'est vraiment tout petit, ce sont les accouchements à l'hôpital. Donc, vous voyez qu'ils ont réussi à réduire la mortalité maternelle sans forcément aller vers une approche hospitalière. Alors maintenant, on a regardé ce qui s'était passé en Suède, la courbe rouge. On va regarder ce qui s'est passé maintenant aux États-Unis. Il faut vous dire, alors que les États-Unis plafonnaient à 600 ou 700 décès pour 100 naissances vivantes, les États-Unis étaient quand même, au niveau économique, même au niveau alphabétisation, à l'époque, on était à 95%. D'alphabétisation, tout le monde rêvait, c'était le rêve américain, mais on se rend compte que la mortalité maternelle, ça ne suivait pas. Alors pourquoi ça ne suivait pas? On va reprendre un peu le même schéma. Alors si on voit au niveau des facteurs techniques et des facteurs politiques, il a manqué en fait cette information. En fait, si on voit, les États-Unis avaient 150 ans de retard par rapport à la Suède. Quand je vous parlais de ce registre qui a permis à la Suède de voir le nombre de mortalités maternelles, même d'en faire une analyse et de voir qu'il y avait une mortalité évitable, dans plein d'endroits, il n'y avait même pas de registre de naissance. Enfin, on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait. Et donc, il n'y a pas eu de pression avant 1930. Qu'est-ce qui s'est passé en 1930? Il y a eu un article dans le New York Times qui regardait ce qui se passait en Europe, mais qui disait, regardez, en Europe, c'est en train de diminuer et nous, on est toujours à 700, il y a un problème. Et c'est là où on voit que le rôle de la société civile, le rôle des journalistes, et là, je rebondis aussi en Afrique, c'est que, il faut qu'il y ait une contre-pression, en fait, si le ministère de la Santé, si ça ne suit pas, il faut que la société civile prenne ça en main, et là, ça a marché. Et alors, je m'excuse dans la salle pour les gynécos qui aiment bien travailler avec les sages-femmes, mais à l'époque, aux États-Unis, il y avait vraiment un lobby des spécialistes qui critiquaient vraiment les sages-femmes. Et à l'époque, les sages-femmes formées aux États-Unis étaient plutôt des sages-femmes migrantes. Donc, c'était des sages-femmes européennes, des migrantes. Et alors, à l'époque, aux États-Unis, c'était vu En Europe, ils accouchent encore avec des sages-femmes à la maison. Ça, c'est pas moderne. Nous, la modernité, c'est l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, à l'époque, il n'y avait pas de la qualité des soins était très, très mauvaise. Il y avait des fièvres puerpérales, pas mal de complications iatrogènes parce qu'on n'utilisait pas toujours la technique à bon escient. Et du coup, ben, on n'arrivait pas à réduire la mortalité maternelle, même si les femmes accouchaient à l'hôpital. Et donc, non seulement la qualité des soins était mauvaise à l'hôpital, mais il y avait aussi une barrière d'accès des soins. Mais ça n'a pas tellement changé, je pense, aux États-Unis. Mais il y a toujours ce problème, hein, d'accès aux soins pour les plus pauvres. Et là encore, ben, on voyait une grande di disparité entre les riches et les pauvres. Alors, si on regarde ici, à l'époque, en fait, et c'est intéressant de voir que la Suède aussi n'est pas un cas isolé, donc c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un accident de l'histoire. On a vu que d'autres pays nordiques, et ça on le sait, hein, les pays du Nord ont toujours été un peu en pointe par rapport à la mortalité maternelle, donc que ce soit la Norvège, que ce soit le Danemark ou les Pays-Bas, à l'époque c'était des pays qui avaient une grande priorité sur des sages-femmes professionnelles, et on voit qu'elles avaient des ratios de mortalité maternelle inférieurs aux autres. En jaune, et là se retrouve la France, on avait des pays plus mixtes, où on avait un peu un partage entre des accouchements faits par des gynécologues ou des médecins et des sages-femmes. Et là, ben, avec les États-Unis en premier, on avait les pays qui ont fait vraiment le choix au départ, vraiment que des accouchements par des spécialistes. Et donc, on voit bien avec l'exemple de la Suède qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment le lieu de l'accouchement accouché à la maison ou à l'hôpital qui comptait, mais c'était par qui on était accouché et c'était la qualité. Voilà, de l'accompagnement et l'assistance qualifiée. Alors maintenant, je vais parler du présent et de la situation en Afrique ou en Asie, enfin dans les pays où on a encore des grands taux de ratio de mortalité maternelle. Et là, je voulais vous présenter deux grandes publications qui sont assez importantes. Vous les avez sans doute vus. Donc, l'avantage de cette série du Lancet, c'est qu'elle a aussi été traduite en français. Donc, ça aussi, je tiens à le souligner, parce que je sais que parfois, dans les pays francophones, tout le monde ne lit pas très facilement l'anglais. C'est pas, et on le dit, hein, enfin, Luc disait, l'Afrique francophone va mal côté santé maternelle, mais parfois, on se demande aussi. Est-ce que ces pays-là ont toujours accès à l'evidence-based medicine, aux publications, à la recherche? Parce qu'il y a quand même un biais énorme où, ben, pour les pays anglophones, c'est tout de suite plus facile d'être publié et de lire la recherche. Donc, voilà. Donc là, c'est pour rendre accessibles les résultats de la recherche. C'est une série spéciale sur la maïeutique et les sages-femmes. Et puis, donc Vincent Fauveau n'est pas là aujourd'hui, mais c'est avec Luc de Bernis, avec Vincent Fauveau, les deux compères, ont beaucoup travaillé vraiment sur mettre en valeur, voilà, le rôle des sages-femmes. Et ça, c'est le deuxième grand rapport qui est sorti, qui fait vraiment l'état des lieux dans le monde des sages-femmes. Donc là aussi, il est disponible en anglais et en français. Vous pouvez tout télécharger sous format PDF. C'est vraiment accessible. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quelle est la situation? Ben, c'est un mauvais partage des ressources. Parce qu'on voit que si 96% du fardeau mondial de la mortalité maternelle se retrouve dans ces pays ici, hein, de couleur, en fait, il n'y a que 42%, elles n'ont que 42% des ressources humaines, des sages-femmes, des gynécos, des médecins qui peuvent apporter un suivi et accompagner ces femmes pendant l'accouchement. Donc là, on voit vraiment une mauvaise répartition des ressources. Je vais axer aussi ma présentation sur quatre grands points que le rapport mondial des sages-femmes a mis en valeur, qui sont un peu les nœuds, je dirais, sur lesquels il faut travailler. Et un des premiers points, c'est la disponibilité. Donc vous verrez que dans le rapport, On parle des soins de sage-femme. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des soins faits par des sages-femmes. Ils peuvent être faits par des gynécologues, des médecins généralistes formés à l'obstétrique, des infirmières formées à l'obstétrique. Donc, c'est vraiment des soins de sage-femme qui sont les soins lors de la grossesse ou de l'accouchement. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est la manière aussi dont on fait un relevé. Il y a des pays où ils vont dire « Ah oui, on a assez de personnel. Si on fait un ratio nombre de personnes qui sont capables de faire des accouchements et d'accompagner une femme pour les urgences par rapport au nombre d'accouchements par an, ça suffit. » Mais en fait, vous voyez ici, c'est qu'il y a une disparité énorme avec le nombre de personnes. Et après, donc ici, il y a un mélange de sages-femmes, de gynéco, de médecins généralistes, infirmières formées à l'obstétrique. Et regardez ici, quand on regarde les équivalents temps plein. Alors là, ça se réduit parce qu'il y a plein de gens, ils ne font pas que de l'obstétrique. Il y a aussi le côté administratif, il y a les autres choses. Voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins et qu'il ne faut pas se fier juste à cocher qui est sage-femme, qui est gynéco, parce que tout le monde n'a pas non plus un travail clinique tout le temps. Alors, il y a aussi la question du salaire des sages-femmes, faut dire les choses comme elles sont, c'est que ce n'est pas un métier très, très attractif. Souvent, les sages-femmes, elles commencent très bas, mais elles finissent aussi pas très haut. Donc, il n'y a pas une grosse évolution. Et moi, qui ai travaillé dans plusieurs pays, au Burkina Faso, voilà, une sage-femme, elle peut avoir 120 euros, 150 euros par mois. Et des fois, elle dit, l'argent que je mets dans ma mobylette pour aller à l'hôpital, il est déjà pris par mon salaire. Donc, c'est pour expliquer aussi... Quand des fois on parle de corruption ou de bakchis de sous la table, quand on reçoit que 100 euros par mois, on essaye de trouver. Alors, je ne veux pas excuser, mais c'est pour dire que le salaire aussi est important et peut motiver à rester à son poste. Parce que je vois plein de sages-femmes qui passent des concours pour sortir en fait de leur métier de sage-femme, mais pour gagner plus. C'est pas forcément qu'elles n'aiment pas leur travail, mais parce qu'elles s'en sortent pas. Alors, la question d'accessibilité, vous voyez ici, donc c'est ici vous avez ce graphique pour les accouchements assistés par du personnel qualifié. Ici, vous avez le pourcentage de naissances vivantes pour lesquelles la mère a passé au moins les 4 visites prénatales. Ici, on a divisé par groupe au niveau de couverture. Donc ça, c'est les pays où il y a un taux très, très faible, une couverture basse au niveau des accouchements assistés. Et là, des pays où, au contraire, on est très élevé. Donc ce qui est important à voir, c'est que, vous voyez, dans le groupe où on a une couverture élevée au niveau de pourcentage d'accouchements assistés, bien, on voit quand même tout de suite une différence. En bleu, on a les 40% de la population les plus pauvres et 60% les plus riches. On a tout de suite un gradient. Donc même dans les pays où on a une couverture élevée, ça veut dire qu'il faut toujours désagréger des données. Et ça, on le sait dans les OMD, maintenant les ODD. Il faut toujours désagréger les données en fonction du niveau de pauvreté, du niveau d'éducation, parce que même milieu rural, milieu urbain, parce que parfois un taux, une couverture nous semble bonne, et dès qu'on désagrège, on voit les inégalités. Donc ça, c'est vraiment une règle de base. Et puis, on se rend compte aussi que, en fait, dans les pays qui ont une couverture très basse, même les plus riches, ils n'arrivent pas non plus à accéder. Et là, ça veut dire qu'il n'y a même rien du tout. Il y a des endroits où il faut faire 300 km pour trouver l'hôpital de référence. Donc, même si on est plus riche, on n'est pas plus avantagé parce que là, c'est vraiment... Voilà, il n'y a rien. Et là, on est dans l'accessibilité géographique. Alors, par rapport à la qualité, donc ça, c'est vraiment... Luc en a parlé aussi. La qualité de la formation des sages-femmes, ça, c'est vraiment primordial. Et même si la Confédération internationale des sages-femmes se bat vraiment pour donner des standards au niveau de la formation, on se rend compte que ce n'est pas une réalité. En théorie, on a des beaux standards. En pratique, c'est autre chose. Ici, on voit le non minimum d'accouchements à réaliser sous supervision clinique. Donc, la Confédération internationale des sages-femmes dit qu'il faudrait un minimum de 50 accouchements sous supervision pendant sa formation pour dire, mais c'est un minimum, si on fait mieux, c'est encore... Mais voilà, mais on voit que dans certains endroits, on est à 10, on est à 20, et supervisé comment? Et là, je voudrais encore donner mon expérience au Burkina Faso, où j'étais beaucoup avec l'école de sages-femmes. Par manque de moyens, elles ont des fois 100, 200 sages-femmes dans un amphi. Elles n'arrivent pas à trouver après les lieux de stage. Donc les sages-femmes, les élèves, sont, les étudiantes sont dispatchées, mais il n'y a pas vraiment de formation des gens qui vont les former. Et en fait, la directrice à l'époque de l'école, en 2006, quand j'étais au Burkina, avait fait un test. Elle avait donné deux fausses évaluations d'étudiants. Donc elle avait dit pour Fatoumata, pour Yasmina, voilà. Et c'est des étudiantes qui n'existaient pas. Mais à ce moment-là, l'hôpital avait 20 étudiantes sages-femmes. Et donc, elles ont eu des 15 sur 20, des 16 sur 20, pour, alors qu'elles n'existaient pas. Donc, c'est pour vous dire la manière dont les évaluations étaient faites. Et aussi, la pression qu'elle a, elle me disait un cas où elle avait une étudiante qui était vraiment très, très mauvaise, elle voulait la faire redoubler, mais c'était la nièce du ministre de la Santé, et qui lui disait, Madame Ouédraogo, si ma nièce ne passe pas, vous êtes virée de l'école. Donc voilà, donc c'est pour donner des exemples qu'entre la théorie et la pratique, donc c'est vraiment, il y a un gros travail à faire et je tire mon chapeau aux enseignantes, vraiment sages-femmes dans ces pays parce qu'il faut vraiment se battre au niveau de la qualité de l'enseignement. Acceptabilité, ça c'est aussi un point important. Parfois, on a le matériel, on a un hôpital, une maternité de premier recours, on a les sages-femmes et les femmes ne viennent pas. Alors pourquoi elles ne viennent pas? Il y a aussi un gros travail, Luc en parlait, des attitudes dont je sais que l'IRD à Marseille avec Yannick Jaffré a beaucoup travaillé sur les attitudes du personnel soignant et entre autres des sages-femmes. Et je sais, moi qui ai pas mal roulé ma bosse un peu partout, parfois j'avais honte d'être sage-femme, ça faisait mal au cœur de voir mes collègues hein, qui frappaient des femmes, la violence physique. Donc c'est pas... Hein, c'est pas pour dire une sage-femme c'est toujours mieux, c'est toujours bien. Il faut être aussi autocritique et parfois il y a des sages-femmes qui sont vraiment très très dures avec les femmes. Quand je vous parlais du racket, ça peut aller très très loin. Moi j'ai vu des sages-femmes qui demandaient pour chaque toucher vaginal, pour un prématuré, il fallait aider à tirer le lait. Elles faisaient payer 1000 CFA à chaque fois. Donc chaque acte était monnayé. Et donc là il y a des dames qui disent. Ben, je préfère rester à la maison parce que ça va appauvrir mon ménage. Enfin, si je dois donner 50, 100 000 CFA, je n'ai pas les moyens. Je préfère rester à la maison et on verra comment ça va se passer. Donc, il y a ce problème des attitudes. Parfois, donc, vous voyez ici, ça, vous pourrez le voir, c'est tiré du rapport mondial hein, des sages-femmes. Il y a parfois l'idée dans des familles plus aisées où aller chez un spécialiste, un gynéco, bah, c'est montrer qu'on est riche par rapport à la sage-femme, donc on va plutôt aller chez le gynécologue. Il y a la question aussi du coût, donc aussi maintenant, il y a dans beaucoup de pays une politique pour rendre les soins obstétricaux d'urgence moins chers ou gratuits, et on a fait un gros focus sur la césarienne. Et alors, là, je fais un point d'attention parce que j'ai travaillé dans un projet où on analysait la question de la césarienne, soi-disant, enfin, gratuite dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Et un des biais, comme au Bénin, où la politique ne visait que les césariennes, mais pas les accouchements normaux, des femmes avaient vite fait le compte que finalement, ça leur coûtait moins cher d'avoir une césarienne que d'accoucher normalement. Et alors, elle demandait, elle faisait une pression auprès du gynéco et qui parfois acceptait, ou alors, en disant, eh bien, il faut une césarienne, parce que la césarienne, elle est gratuite, il y a une politique de l'État, alors que d'accoucher avec la sage-femme ou quelqu'un d'autre qui demandait de l'argent en plus, ça leur venait plus cher. Et donc, vous voyez, c'est quand on fait une politique, il faut faire attention. Si on vise qu'on rend gratuit que les urgences, eh bien, du coup, c'est l'accouchement normal qui en pâtit. Alors, quel est l'impact de mettre son énergie, ses ressources pour les sages-femmes? Bien, on voit que ça a vraiment un impact. Hein. Bon, j'aime pas parler en coûts, mais en santé publique, c'est vrai qu'on transforme tout en coûts et on parle qu'on a 16 fois le retour en investissement, l'argent qu'on investit pour les sages-femmes et que les sages-femmes, en fait... elles peuvent subvenir à 87% en fait, hein, des besoins essentiels pour les nouveau-nés et les femmes enceintes. Donc on voit que c'est vraiment des pionnières, des chevilles, en fait, des personnes de premier échelon. Et je répète toujours, en duo avec les gynécologues, parce que je pense que c'est vraiment la qualité d'une sage-femme, c'est savoir à quel moment on passe la main et, et de travailler ensemble. Alors, On parlait des objectifs de développement durable et cet horizon pour 2030. Donc, dans le rapport mondial des sages-femmes de 2014, l'objectif, ce serait que toutes les femmes en âge de procréer, y compris les adolescentes, Luc a beaucoup insisté sur les adolescentes, aient un accès universel, donc là encore, je répète, aux soins de sages-femmes, mais qui peuvent être donnés par différents professionnels de santé. Alors, il n'y a pas que les soins donnés par des sages-femmes qui ont un impact, évidemment. Et Luc a insisté, et je vais réinsister, mais réduire le nombre de grossesses et l'accès à la contraception, c'est primordial. Donc Luc disait, de manière générale, on peut dire qu'on peut avoir des réductions de 30 à 40%. Dans un des articles du Lancet, dans certains groupes de pays à moyen revenu, on parlait même d'une réduction jusqu'à 57% de la réduction maternelle, rien qu'en ayant un accès à la contraception. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir. Évidemment, augmenter le nombre de sages-femmes dans certains pays, elles ne sont pas encore assez nombreuses, mais surtout les retenir, on a vu l'importance de les retenir. Ça passe forcément par un développement global d'un pays. Moi, il y a des collègues sages-femmes qui m'ont dit « Pourquoi je vais aller m'enterrer dans un petit village? Il n'y a même pas d'école pour mes enfants. Enfin, il n'y a pas accès à Internet, il n'y a pas l'eau. Mais moi, c'est ma vie. En fait, je sacrifie mes enfants et ma vie. Donc, je reste à la capitale juste parce que je veux que mes enfants aient une éducation. » Donc, voilà, je pense que c'est assez humain et que si on veut que des infirmiers, des sages-femmes restent en milieu rural, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un développement global du pays. Et parfois, moi, j'ai envie de créer une ONG pour faire des routes. Non, des fois, je me dis, c'est vrai, et ça a un impact sur la mortalité maternelle dans les évacuations, mais je me dis, faut, voilà, c'est évident que tout est lié au développement du pays. Et améliorer l'efficacité, ce n'est pas que le nombre qui compte, hein, mais vous avez bien vu avec la qualité de l'enseignement que c'est important de miser là-dessus. Et comme je disais, éviter le brain drain. Et moi, ce qui me fait du mal, c'est quand des organisations internationales ou des UN attirent parfois des gens très bien dans leur pays pour faire d'autres tâches. Et je me disais, parfois, on devrait offrir un meilleur salaire à des cliniciens, voilà, pour qu'ils restent à leur poste, en fait, que de retirer des ressources qui sont déjà maigres. Alors, comme je disais, les sages-femmes, elles sont centrales, mais elles ne sont pas toutes seules. Et quand on voit, ça c'est un article qui est tiré du Lancet, où on a étudié plus en profondeur quatre pays, le Burkina Faso, le Cambodge, le Maroc et l'Indonésie, on voit qu'à chaque fois, l'importance, ces pays-là, qu'on réussit à réduire leur mortalité maternelle, l'importance d'intégrer les sages-femmes au niveau du système de santé du pays. C'est un maillon parmi plein d'autres actions qui ont été prises. Une des premières actions, c'est de rapprocher les services de santé auprès des femmes. Je disais, hein, si on voit le Niger ou le Tchad, les distances peuvent être terribles. Donc, rapprocher des centres de santé où on peut faire des accouchements avec une ambulance pour les urgences, mais donc de construire des nouveaux centres de santé dans des zones complètement enclavées, c'est important. Ensuite, en deuxième lieu, elles ont à peu près la même chronologie. Il y a eu un investissement sur les sages-femmes. Tous ces pays-là ont investi aussi dans réduire les barrières financières, donc faire que tous les coûts pour la santé, enfin, des soins ne soient pas à la charge des patientes et qu'il y ait une partie que l'État prenne ses responsabilités. Et puis, très important, la qualité des soins. Donc, l'accès à la césarienne, j'en parlais, je donnais l'exemple en Afrique, c'est très bien, mais si c'est fait dans un bloc opératoire avec des conditions d'hygiène catastrophiques, enfin, vous enterrez la femme en même temps que vous faites la césarienne, quoi. Donc, c'est vraiment important, la qualité des soins. Et voilà, ça, c'est un petit clin d'œil pour mes collègues sages-femmes, pour dire juste que cette demande de reconnaissance que les sages-femmes demandent souvent en Afrique, d'être mieux payées, d'être mieux reconnues, qu'il y a un vrai duo gynéco et sages-femmes, je pense que c'est universel. Et voilà, les dernières grèves en France nous l'ont montré, mais c'est juste pour dire, voilà, on est ensemble et chacun a besoin d'être à sa place et respecté. Voilà, merci.